Etur Jesus Christus.
L'Autriche confinée à partir de lundi, la vaccination obligatoire à partir de février. Le gouvernement a pris cette décision face à l'augmentation des cas de Covid ces derniers jours dans le pays. Abus sur mineurs en France, la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France, instaure une commission indépendante, reconnaissance et réparation, ainsi qu'un fonds de réparation subsidiaire destiné aux victimes. C'est la décision qui a été prise à l'issue de l'assemblée plénière de la conférence. Les Émirats arabes unis comptent sur le nucléaire pour assurer leur transition énergétique, mais dans le golfe Persique, ce programme n'est pas anodin. On en reparle dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonsoir. C'est donc une première en Europe depuis le printemps. Une population entière va être à nouveau confinée à cause de la Covid-19. Le gouvernement autrichien du chancelier Alexander Schallenberg a pris cette décision qui s'appliquera à partir de lundi. Autre mesure, l'obligation de se vacciner contre le coronavirus à partir du 1er février 2022. Déjà depuis lundi dernier, un confinement pour les non-vaccinés était en vigueur dans toute l'Autriche, mais cela n'a pas été suffisant. À Vienne, les précisions d'Isorias.
Beaucoup d'experts craignaient qu'un confinement pour les seuls non vaccinés ne soit pas suffisant face au nombre croissant d'infections en Autriche, pays de moins de 9 millions d'habitants qui enregistre désormais 15 000 nouveaux cas quotidiens. Le gouvernement leur a finalement donné raison en décidant d'un confinement pour l'ensemble de la population. Il devrait entrer en vigueur ce lundi pour 20 jours maximum. Selon le chancelier, au 13 décembre, les personnes vaccinées et celles récemment rétablies du coronavirus devraient en effet pouvoir en sortir. Durant cette période, tout va de nouveau fermer dans le pays, comme commerces non essentiels, restaurants ou lieux de culture. Les Autrichiens ne pourront sortir que pour faire leurs courses, s'aérer ou travailler, mais le télétravail est recommandé. Le gouvernement souhaite également rendre la vaccination contre le coronavirus obligatoire à partir du 1er février prochain. Une décision radicale, alors qu'à ce jour, 66% des Autrichiens à peine ont reçu leurs deux doses, un chiffre jugé bien trop bas. Une manifestation rassemblant des anti-vaccins est prévue ce samedi dans la capitale autrichienne. Vianne Isorias pour Radio Vatican.
En Allemagne, l'inquiétude grandit aussi. L'Institut de veille sanitaire Robert Koch estime que les restrictions visant les non-vaccinés décidées jusqu'à maintenant ne sont plus suffisantes pour briser la nouvelle vague d'infection. D'où la recommandation d'interdire les grands événements, de fermer les potentiels foyers d'infection comme les bars et les restaurants mal aérés et la réduction des contacts privés. Concernant la vaccination anti-Covid, les autorités sanitaires canadiennes autorisent l'utilisation du vaccin de Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans. Aucune date de début de la campagne vaccinale n'a pour l'instant été annoncée. Mikhaïl Saakachvili pourrait être transféré dans un hôpital militaire pour y être soigné, annonce du gouvernement au sujet de l'ancien président géorgien actuellement en grève de la faim pour dénoncer son incarcération. Cela fait 50 jours qu'il ne s'est pas alimenté, ce qui fait dire au médecin que sa vie est en danger. Jusqu'à présent, les autorités géorgiennes avaient refusé son transfert dans un établissement hospitalier civil. Plusieurs milliers de ses partisans se sont retrouvés aujourd'hui à Tbilissi, la capitale, pour réclamer des garanties d'une assistance médicale adéquate. Un nouveau pas de géant, c'est ainsi que le président américain a décrit le feu vert donné ce matin par le Congrès à son vaste plan de dépenses sociales. 1750 milliards de dollars doivent être investis dans des crédits d'impôts pour les foyers américains, pour une école maternelle pour tous ou bien pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est le plan social le plus ambitieux depuis 50 ans aux États-Unis. Une bonne nouvelle donc pour Joe Biden, alors qu'il doit subir dans quelques heures à peine une coloscopie de routine. Cet examen sous anesthésie générale a pour conséquence que les pouvoirs du président sont transférés de manière temporaire à sa vice-présidente. Kamala Harris devient ainsi la première femme à exercer formellement les prérogatives présidentielles aux États-Unis. L'ONU demande plus d'aide internationale pour Madagascar. La grande île est menacée de famine dans certaines régions, en particulier le sud. Selon les Nations Unies, il faut 231 millions de dollars d'ici le mois de mai prochain pour répondre à cette crise humanitaire. Seulement 120 millions pour le moment ont été versés par des donateurs. Et puis, inquiétude également des Nations Unies face à l'aggravation rapide de la sécheresse en Somalie. 2,3 millions de personnes y font d'ores et déjà face à de sérieuses pénuries d'eau et de nourriture. Deux semaines après le tournant majeur opéré à Lourdes par les évêques de France, c'est au tour des religieux et religieuses de France de dévoiler leurs conclusions sur le douloureux thème des abus. Après une semaine d'assemblée plénière dans la cité mariale, la COREF, la conférence des religieux et religieuses de France, instaure une commission indépendante, reconnaissance et réparation, ainsi qu'un fonds de réparation subsidiaire destiné aux victimes d'abus de la part de religieux. Frère Michel Laloux, franciscain et deuxième vice-président de la COREF, nous explique les ressemblances et différences des mesures prises par les religieux par rapport aux évêques.
Là, il y a en même temps du semblable et du différent. Du semblable parce que il y a 15 jours, la conférence des évêques, ce qu'elle a décidé, ça va tout à fait dans le sens aussi de ce qu'on avait déjà préparé au niveau de la COREF, au niveau d'une commission. La commission fonctionnera exactement avec les mêmes valeurs, mêmes soucis. Mais il y a cependant des différences parce que cette commission réparation et le fonds de dotation fonctionnera vis-à-vis des instituts. C'est-à-dire que c'est chaque fois l'institut concerné à qui on demandera de donner l'indemnisation. Ça, c'est une première chose. Il faut dire aussi que si un institut n'existe plus, il y a un fonds de dotation qui permettra à la victime néanmoins d'être indemnisée. C'est Antoine Garapon, qui est un magistrat, qui, avec les mêmes repères que la commission de la CIAZ, a constitué un groupe reconnaissance et réparation, c'est-à-dire avec une indépendance par rapport à la COREF.
Le frère Michel Laloux, franciscain et deuxième vice-président de la COREF, il était interrogé par Delphine Allaire. Vous pouvez retrouver toutes nos informations concernant ce dossier, bien évidemment, sur notre site internet www.vaticannews.va. Retour dans notre dossier ce soir sur le programme nucléaire des Émirats Arabes Unis. Ils ont annoncé en marge de la COP26 à Glasgow la mise en marche d'un troisième réacteur nucléaire devant servir à la production d'électricité dans le pays. Dernière étape en date d'un projet lancé il y a 11 ans par les Émirats. Lorsque l'ensemble des 4 réacteurs de la centrale prévue seront achevés, ils devront fournir une énergie respectueuse de l'environnement. Une étape très attendue dans la région, d'autant que la capacité de production de la centrale devrait s'élever à 5600 MW, soit l'équivalent de 25% des besoins en énergie électrique des Émirats. David Rigoulet-Rose est chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Il revient sur les intérêts en jeu pour les Émirats derrière ce projet.
Le projet est de toute façon remonte déjà à 2010, hein. Ça s'inscrit dans la perspective de la transition énergétique. Il y a une stratégie émiratique qui est fondée sur 3 volets, parce que les besoins énergétiques sont très importants. Et donc, c'est le gaz, l'énergie solaire et l'énergie nucléaire. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, la centrale, en fait, qui a été un projet élaboré par le Korea Electric Power Corporation, est destinée à assurer à terme 25% des besoins en électricité du pays. Le premier réacteur fonctionne depuis avril 2021. Le deuxième a été mis en service en août 2021 et donc le troisième doit être prochainement opérationnel avec la perspective d'un quatrième qui assurerait une sécurité énergétique pour les Émirats.
On parle bien ici de production d'électricité à partir de l'énergie nucléaire. Doit-on craindre que cette centrale aux Émirats Arabes Unis soit utilisée à l'avenir dans un but militaire ?
Alors non, concernant les objectifs, ils sont très clairs. D'ailleurs, les Émirats ont donné des garanties en termes de contraintes à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc il n'y a pas du tout de suspicion en la matière. On n'est pas dans la même configuration qu'avec le programme iranien. C'est clairement dans le but d'assurer des besoins en termes de nucléaire civil. Alors évidemment, la maîtrise de la technologie nucléaire peut susciter des interrogations, mais dans le cas des Émirats, c'est vraiment pas l'objectif premier, d'autant plus que les contraintes qu'ils ont accepté d'avoir sont extrêmement strictes en termes de supervision et à la fois technologique et scientifique.
Oui, et au sujet de l'Iran, justement, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que Téhéran continue d'enfreindre certaines restrictions nucléaires en enrichissant son uranium. Et dans un même temps, l'Égypte et la Jordanie développent leur propre programme nucléaire. Quel regard portez-vous sur cette course au nucléaire au Moyen-Orient ?
Oui, c'est le problème, effectivement, de la maîtrise du cycle nucléaire, parce que l'énergie nucléaire a potentiellement un usage dual, c'est-à-dire à la fois civil et militaire. Concernant le nucléaire ne peut pas être interdit en termes civils aux pays qui en ont besoin, d'autant plus qu'on est dans une logique justement de transition énergétique à l'échelle mondiale avec les enjeux du changement climatique.
Interrogé par Claire Riobé, David Rigoulet-Rose était ce soir l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera lundi matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas, demain soir à 18h, notre magazine Vox Mundi à écouter en direct. D'ici là, très bonne soirée à toutes et à tous et excellent week-end.